Bienvenue sur les chroniques de la revue française de comptabilité, à l'occasion de la parution de son 600e numéro, et puis aussi des 70 ans de la revue, la RFC, la revue française de comptabilité, publie une édition spéciale. Aujourd'hui, on va se pencher sur l'évolution de la normalisation comptable en France. On s'appuie pour ça sur l'article d'Hubert Tondeur. Il est titulaire de la chaire de comptabilité du CNAM, le Conservatoire national des arts et métiers, et aussi membre du collège de l'ANC, l'autorité des normes comptables. L'idée générale, si je comprends bien, c'est que la normalisation, ça ne s'est pas fait en un jour. C'est une construction historique, lente, très liée aux besoins de chaque époque, quoi.
C'est exactement ça. C'est un processus long. On pourrait même remonter bien avant, à Colbert en 1873 ou au Code de commerce de 1807. Ils imposaient déjà de tenir certains livres comptables. Mais bon, soyons clairs, au début du XXe siècle, il n'y avait pas vraiment de plan unifié, pas de règles standardisées. C'était assez hétérogène.
D'accord, donc des prémices anciennes, mais pas de vraie structure commune au départ.
Voilà. Et le vrai déclencheur, le tournant, on peut dire, c'est la Première Guerre mondiale. L'État a eu besoin de bases fiscales fiables. D'abord pour les impôts sur les bénéfices de guerre en 1916, puis les BIC en 1917.
Ah oui, les bénéfices industriels et commerciaux.
Exactement. Et là, on s'est rendu compte qu'il manquait cruellement de règles communes, homogènes. La comptabilité est devenue, en quelque sorte, un outil fiscal, un instrument de contrôle pour l'État, avant tout.
Un besoin très pratique, donc, qui pousse à structurer tout ça. Et c'est là qu'arrive le premier PCG.
Justement, le premier plan comptable général, le PCG, arrive en 1942. Il faut dire qu'il s'inspire pas mal du modèle allemand, c'est assez logique dans le contexte de l'époque, économie dirigée, tout ça.
Oui, bien sûr.
Et il apporte enfin un cadre commun. Une nomenclature de comptes, des méthodes d'évaluation, des modèles d'état financier. C'était pas encore obligatoire partout, mais la première pierre était là.
Une base commune. Et pour que ça fonctionne sur le terrain, il fallait des gens pour l'appliquer.
Tout à fait. C'est là qu'intervient l'Ordre des experts comptables. Créé à peu près à la même époque, par la loi de 42 puis l'ordonnance de 45, c'était essentiel pour diffuser les normes, former les praticiens.
Le plan et les professionnels. Les deux jambes, en somme.
C'est ça. Et l'après-guerre va consolider tout ça. D'abord, en 1947, on crée le Conseil supérieur de la comptabilité, le CSC. Il révise le PCG, il y inscrit des principes fondamentaux qu'on connaît bien, régularité, sincérité, prudence. Jean Fourastier, du CNAM, a joué un rôle important là-dedans.
Des principes clés, toujours d'actualité ?
Oui. Et puis en 1957, le CSC est remplacé par le Conseil national de la comptabilité, le fameux CNC. Là, on a un organe plus large, plus inclusif. Il devient vraiment le cœur de la normalisation. Il développe les plans sectoriels, etc.
Et le PCG devient obligatoire ?
Progressivement, oui. Il y a eu des révisions importantes, notamment en 82 et 86. Celles-ci intègrent les directives européennes, en particulier la quatrième directive de 78. C'est elle qui introduit cette notion très importante d'image fidèle.
L'image fidèle ? Ça veut dire que les comptes doivent vraiment refléter la réalité de l'entreprise. Au-delà de la simple application des règles, c'est bien ça, hein ?
C'est tout à fait l'idée. Une vision sincère et correcte. C'est une influence européenne majeure, oui.
Et après ça, on sent une accélération vers la fin des années 90. Plus de réglementation.
Oui, exactement. Pour être plus réactif, notamment face à l'Europe et aux marchés financiers, on crée en 1998 le Comité de la réglementation comptable, le CRC. Sa grosse nouveauté, c'est son pouvoir réglementaire. Il peut rendre les normes obligatoires, directement.
Ah, d'accord. Plus d'agilité.
Voilà. Et le CRC va publier des règlements importants qui modernisent vraiment le référentiel français. Je pense au 9903 sur les actifs, au 2006 sur les amortissements, 2010 sur les provisions. Et on voit déjà une forte inspiration des standards internationaux dans ces textes.
L'internationalisation qui pointe le bout de son nez.
Complètement. D'ailleurs, la même loi de 98 qui crée le CRC, elle autorise aussi, sur option, les groupes cotés à utiliser les normes IES, qui deviendront les IFRS, pour leur compte consolidé. L'ouverture était faite.
Et pour simplifier l'architecture de tout ça, on regroupe les instances.
C'est la suite logique. En 2010, fusion du CNC et du CRC pour donner naissance à l'ANC, l'autorité des normes comptables. Un seul organisme pour la normalisation privée, avec une double mission, édicter les normes françaises bien sûr, mais aussi représenter la France à l'international, à l'ISB, à l'EFRAG.
Le FRAG, le groupe consultatif européen.
Oui, et l'ANAC n'a pas chômé, elle a mené une consolidation du PCG en 2014 et surtout une grosse modernisation avec le règlement 2022-06 qui entre en vigueur en 2025. L'objectif, c'est simplification, meilleure lisibilité, adaptation au numérique. On peut citer le plan de compte unique, la suppression des transferts de charges ou la nouvelle définition du résultat exceptionnel.
Ça nous mène au défi d'aujourd'hui. On a toujours cette tension entre l'international, les IFRS, qui sont obligatoires pour les comptes consolidés des sociétés cotées depuis 2005.
Oui, depuis 2005.
Et puis le besoin de garder des règles qui collent à notre tissu économique français, les PME notamment. C'est un sacré équilibre à trouver.
Ah oui, un équilibre permanent. Et l'autre grande vague actuelle, c'est évidemment l'information extra-financière, le reporting ESG. Environnementale, sociale, gouvernance. L'Europe pousse très fort avec la directive CSRD et ses normes, les ESRS.
Basées sur la double matérialité, c'est ça ?
Exactement, la double matérialité. Il faut regarder à la fois l'impact de l'entreprise sur son environnement au sens large et l'impact de ses enjeux ESG sur la performance de l'entreprise elle-même. L'ANC a une commission dédiée, la commission durabilité, qui travaille à intégrer tout ça de manière cohérente avec l'information financière. Mais c'est un chantier colossal. On pense aux méthodes, à l'audit de ces nouvelles données.
L'assurance, oui. Et sans oublier le numérique qui change absolument tout. La façon de produire l'info, de la diffuser.
Mais oui.
On parle de formats spécifiques comme le XBRL, d'interopérabilité entre les systèmes, de sécurité. La digitalisation, c'est vraiment au cœur de la réforme récente du PCG, mais c'est un mouvement continu.
Tout à fait. Pour résumer un peu cette longue histoire, on voit que la compta n'est pas une technique figée, loin de là. D'un outil né pour des besoins fiscaux, elle est devenue un langage financier qui s'internationalise et maintenant elle intègre les grands défis de la durabilité et du numérique. La normalisation, ça reste cette recherche constante d'équilibre entre stabilité et agilité pour s'adapter aux mutations économiques, sociales.
Un processus dynamique.
Très dynamique. Et d'ailleurs, une petite réflexion pour finir. Cette forte dynamique européenne sur le reporting de durabilité, la CSRD, qui touche quand même beaucoup d'entreprises maintenant, est-ce qu'elle ne pourrait pas, à terme, relancer l'idée d'une harmonisation comptable européenne plus poussée ? Peut-être même au-delà des groupes cotés pour les comptes individuels. Bon, c'est une question ouverte, une perspective.
La Revue française de comptabilité vous remercie et vous donne rendez-vous sur le site revuefrançaisedecomptabilité.fr.